Camille Allary, Boniface, histoire d'un chat, à Émile Zola. Nous n'avons jamais pu savoir d'où il venait. C'était probablement un orphelin. Un jour, sans que personne s'en aperçût, il réussit à s'introduire sournoisement dans la maison. Les premiers temps, il nous évitait. Il s'enfuyait dès que quelqu'un faisait mine de marcher vers lui. Il resta longtemps caché sous le buffet de la salle à manger. De ma place, durant les repas, je voyais ses yeux verts miroiter dans l'ombre et regarder curieusement, tandis qu'affriolé par les odeurs de viande qui venaient de la cuisine, il promenait sa langue rose sur ses babines moustachues. Lorsque l'appartement devenait désert, après avoir longuement écouté, le cou tendu, la queue traînante, avec mille précautions, il quittait sa cachette pour venir manger les miettes tombées de la table. Petit à petit, il s'habitua à nous voir marcher autour de lui. Il devint moins sauvage. Il se laissait prendre par la peau du cou et s'accroupissait volontiers sur mes genoux, les yeux à demi-clos, la bouche pleine de ronrons langoureux, quand je m'amusais à caresser son échine de la main. Nous l'avions appelé Boniface. Après quelques mois de cette paisible existence, il était devenu méconnaissable. Une métamorphose s'opérait en lui. Les rudesses de son échine disparaissaient, son ventre prenait des courbes délicieuses, il semblait pétri avec de la graisse. Un ruban de soie rose entourait son cou. Sa belle robe noire luisait, ses yeux semblaient plus profonds et plus vifs. Ses oreilles transparentes laissaient voir des enchevêtrements de veines gonflées d'un sang généreux. Ses moustaches, longues et fournies, lui donnaient un petit air crâne qui le faisait ressembler à un sergent pour lequel une avenante candidière aurait eu des faiblesses. Boniface était un chat modèle. On n'avait pas une peccadille à lui reprocher. Il ne sortait presque jamais. Parfois, il lui arrivait de flâner un moment sur le seuil de la porte, mais il rentrait à la hâte dès qu'il voyait un passant s'approcher de lui. Nanon, la domestique, l'adorait. Elle avait brodé à son intention un joli petit coussin à fond noir, sur lequel se détachait une gerbe de coquelicots et de bluets entremêlés d'épis dorés. C'est là-dessus que le matou s'allongeait devant la braise du foyer. Pendant tout le mois de janvier, il resta enfermé dans le salon. J'aimais à le voir se coucher sur le sol et jouer avec un peloton de fil qui faisait mouvoir du bout de la patte. Il prenait des mines et des poses réjouissantes. Et brusquement, le jeu cessait. Alors, il rampait sur le tapis, battait l'air de sa queue, et tout d'un coup, semblable à un jeune tigre qui blottit dans les bambous, l'œil en feu, la langue hors de la gueule et puis le passage d'une gazelle, en deux bonds il atteignait la rayée qu'il avait vue descendre contre le mur. Souvent il allait chercher querelle à ma chienne et l'agaçait tant et si bien que celle-ci, lasse de voir Boniface gambader autour d'elle, le prenait entre ses dents et le portait sans colère sur le coussin où il avait l'habitude de reposer. L'hiver tout entier fut pour le matou une longue et douce quiétude que rien ne vint troubler. Bientôt la mauvaise saison disparut. Le printemps venait lentement, son manteau de rose sur l'épaule coiffé d'un rayon de soleil. La fin avril approchait. Les hirondelles arrivaient par milliers et reprenaient possession des nids qu'elles avaient construits dans les combes du roc clocher. Les bourgeons crevaient sous le puissant effort de la sève pour donner naissance aux premières feuilles. Les roses épanouies livraient leurs gorges nues aux attouchements des abeilles. Fécondée par le soleil, toute la nature, en s'éveillant d'un long somme, prise d'un âpre besoin d'enfantement, se sentait tressaillir jusque dans les profondeurs de ses entrailles. Un peu avant Pâques, je m'aperçus que de temps à autre, Boniface désertait la maison. Il restait une demi-heure, quelquefois une heure dehors, mais il finissait toujours par rentrer. La semaine suivante, ses absences furent plus fréquentes. Il ne revint qu'à la nuit. Peu à peu, ses escapades devinrent journalières, et il en arriva à courir la prétentaine de l'aube au coucher du soleil. Un mois après, un dimanche, quand les étoiles se levèrent, le matou n'avait point encore regagné sa demeure. Au moment de nous mettre à table, Nanon l'appela à plusieurs reprises. Elle alluma une lanterne et fut même le chercher au jardin. Ses appels réitérés, ses minutieuses recherches n'aboutirent à rien, pas plus de Boniface que sur la main. Et le même soir, vers 11 heures, je revenais du cercle en fumant ma cigarette. La nuit était radieuse. Les étoiles illuminaient le ciel. La lune éclairait la campagne à perte de vue. La vallée silencieuse montait les lointains aboiements des chiens de garde. Des points d'or brillaient aux fenêtres d'une ferme. À mes pieds, des vers luisants cheminaient lentement entre les touffes de gazon, et près de moi, perdu dans les pins que les brises attiédies faisaient frissonner, un coucou chantait sa monotone chanson. J'allais ouvrir la grille de l'allée qui conduit à ma demeure, lorsqu'un miaulement, plein d'ardeur contenue, éveilla mon attention. Je me retournai aussitôt et vins me blottir dans l'ombre d'un pilier. Alors, par-dessus le mur, j'aperçus au fond du jardin ce fripon de Boniface qui jouait avec la jeune chatte du curé. Le matou, couché sur le dos, se tordait joyeusement dans la terre et battait l'air de ses pattes. Accroupi à quelques pas de là, la chatte le regardait en ronronnant. Sa queue balayait le sol. Leurs yeux phosphorescents éclairaient l'ombre. Soudain, Boniface se leva, il bondit près de sa compagne, la mordit sur le cou, et tous deux, obéissant dans la même pensée, s'enfuirent en courant côte à côte. Je vis leur silhouette fine se détacher sur la limpidité bleue du ciel, puis ils disparurent derrière un massif de lilas. Le matou et sa maîtresse venaient de se mettre en route pour le pays de l'amour. Le lendemain, Boniface ne revint pas. Un mois se passa ainsi. À la fin, nous finîmes par croire que, surpris par un mari jaloux, il avait été tué en revenant de quelque expédition amoureuse. « Monsieur, me dit un jour Nanon, vous ne savez pas, Boniface est revenu. » Ah, ah, quand cela ? Ce matin, tenez, il est là, sous la chaise. Regardez comme il a maigri. » Je me penchai pour voir. Le matou n'était plus reconnaissable, on eût dit un fantôme. Ses pattes fléchissaient sous le poids de son corps. De temps à l'autre, de longs frissons le secouaient. Il n'avait même pas la force de miauler. Je l'appelais doucement. Il essaya de se dresser, mais il s'abattit aussitôt sur le plancher. Les rares miaulements qu'il fit sortir de son gosier pour me prouver qu'il me reconnaissait étaient faibles et douloureux comme des râles de moribond. Pauvre Boniface, voilà où l'amour d'abord et la débauche ensuite l'avait conduit. La vieille Nanon avait des tendresses pour lui. Elle lui faisait manger du mou et l'obligeait à boire du lait. Le matou fut longtemps avant de se remettre. Insensiblement, la fièvre disparut, les frissons cessèrent et la santé revint avec les forces. Le matou se transformait encore une fois. Il semblait rajeuni. La vie rallumait ses yeux. Ses muscles reprenaient leur souplesse. Il lui arrivait de bondir comme pour essayer la vigueur de ses jarrets. Et lorsqu'il s'était, pendant quelques minutes, livré à cet exercice, il allait tranquillement s'étendre sur le balcon en plein soleil, et tandis que la respiration lui soulevait le ventre par intervalles, il faisait des rêves peuplés de belles chattes toutes blanches, avec de jolis yeux verts, qui de leur langue fine venaient délicatement lécher la peau rugueuse de son mufle. 15 jours après son complet rétablissement, Boniface déserta de nouveau la maison où il avait été recueilli. Mais cette fois, en partant, Il était loin de se douter qu'il ne devait plus revenir. Nous le cherchâmes partout, depuis la cave jusqu'au grenier. Nanon l'appelait à chaque instant. Le matou ne répondait pas à sa voix. Nous l'attendîmes en vain. Les semaines, les mois s'écoulèrent. Boniface ne reparut pas. Un matin, en rentrant chez moi à l'heure du déjeuner, j'aperçus le cadavre de Boniface qui séchait à l'air tiède au bout de la rue, tout près d'un tas d'ordures. Le pauvre diable, blessé dans quelque guet-apens, voulait sans doute regagner sa demeure, et ses forces lui faisant défaut, la mort l'avait assommé là, sur place. Il était couché sur le flanc, le derrière dans l'eau sale du ruisseau, la tête sur les cailloux. Sa face hideusement contractée grimaçait les douleurs de l'agonie. Ses yeux vitreux, grands ouverts, regardaient le ciel. Une large tache de boue maculait la belle robe noire que j'admirais autrefois. Ses poils hérissés manquaient à certains endroits et mettaient à nu des plaques de chair violacées. Et son ventre, crevé sur le côté, laissait échapper un amas de boyaux gluants et verdâtres sur lequel des centaines de grosses mouches qui voletaient dans l'or du soleil venaient se poser en bourdonnant.